Chapitre 9. Le programme de la présidente Gladstone ce matin-là était particulièrement chargé. Tôt City Central a une journée de 23 heures, ce qui permet au gouvernement de respecter leurs standards de l'hégémonie sans trop bouleverser les rythmes circadiens locaux. À 5h45, Gladstone tint conférence avec ses conseillers militaires. À 6h30, elle déjeuna en compagnie de 2 douzaines de sénateurs, parmi les plus importants, et de quelques représentants de l'Assemblée de la Pangermie et du Technocentre. À 7h15, la présidente se transporta sur le vecteur Renaissance, où la nuit était près de tomber, pour inaugurer officiellement le centre médical Hermès à Cadoux. À 7h40, elle retourna à la maison du gouvernement, où elle avait une réunion avec ses collaborateurs immédiats, parmi lesquels Leigh Hunt, pour revoir le discours qu'elle devait prononcer au Sénat et à l'Assemblée de la Pangermie à 10h. À 8h30, elle eut un nouvel entretien avec le général Morpurgaud et l'amiral Singh pour faire le point de la situation dans le système d'Hyperion. À 8h45, elle avait rendez-vous avec moi. « Bonjour, H. Severn, » me dit-elle. Elle était à son bureau, dans la salle où je l'avais déjà rencontrée 3 jours plus tôt. Elle m'indiqua une longue table contre le mur où du café, du thé et du kafta fumaient dans de la vaisselle d'argent. Je secouai négativement la tête et pris un siège. 3 des fenêtres au lot étaient blanches, mais celle qui se trouvait sur ma gauche affichait la carte en 3D du système d'Hyperion que j'avais déjà essayé de décoder dans la salle du conseil de guerre. J'avais l'impression que le rouge extro se répandait comme de la peinture écarlate au milieu d'une solution bleue.
« Parlez-moi de vos rêves. »«
Dites-moi d'abord pourquoi vous les avez abandonnés, » murmurai-je d'un ton monocorde. « Pourquoi avez-vous laissé mourir le père Hoyt ?» Elle ne devait pas avoir l'habitude qu'on lui parle sur ce ton. Pas après avoir siégé 48 ans au Sénat et assuré la présidence pendant 15 ans. Mais sa seule réaction fut de hausser un sourcil d'un millimètre en disant
« Vous rêvez donc vraiment ce qui se passe ?»«
Vous en doutiez ?» Elle posa le bloc-notes qu'elle tenait à la main, l'éteignit et secoua la tête.
« Pas vraiment. » Mais cela fait un choc d'entendre quelqu'un parler d'une chose que personne d'autre dans tout le Retz n'est censé connaître.
Pourquoi les avez-vous empêchés d'utiliser le vaisseau du consul? Elle fit pivoter son siège pour regarder la fenêtre où le panneau tactique était en train de changer. Le rouge s'étalait encore, le bleu diminuait, les planètes et les lunes étaient en mouvement. Mais si la situation militaire avait quelque chose à voir avec son explication, elle sembla abandonner cette approche lorsqu'elle se retourna subitement vers moi. « Pourquoi devrais-je vous fournir des explications sur une décision gouvernementale, H. Severn ? Quelle est votre circonscription ? Quel citoyen représentez-vous ?
Je représente 5 personnes adultes et un bébé que vous avez abandonné à leur sort sur Hyperion.
Hoyt aurait pu être sauvé. » Gladstone serra le poing et se tapota la lèvre inférieure de la phalange de son index replié.
« C'est possible, » dit-elle. Mais il était peut-être déjà mort. De toute manière, là n'est pas la question, n'est-ce pas ?
Je me laissai aller en arrière dans mon fauteuil. Je n'avais pas pris la peine d'apporter de quoi dessiner, et mes doigts avaient envie de tenir quelque chose. « Où est-elle, alors ? » demandai-je.
« Vous vous souvenez du récit du père Hoyt, celui qu'il leur a fait durant le voyage au tombeau ? »
Oui.
Chaque pèlerin a le droit de demander une faveur au Gritch. D'après la tradition, cette créature n'accorde qu'un seul vœu pour tout le monde et massacre ceux qui n'ont pas eu satisfaction. Vous rappelez-vous quel était le vœu de Hoyt ?
Je réfléchis quelques instants. Chercher un événement dans le passé des pèlerins revenait à essayer de se souvenir d'un détail d'un rêve de la semaine passée.
Et il voulait qu'on lui enlève les cruciformes, répondis-je.
Il voulait la liberté pour l'âme, l'ADN, ou je ne sais quoi du père Duré, et pour lui.
Ce n'est pas tout à fait cela, fit Gladstone. Le père Hoyt ne voulait plus vivre.
Je me levai d'un bond, renversant presque mon fauteuil, et marchai jusqu'au panneau d'affichage.
C'est de la foutaise !
M'écriai-je.
Et même si c'était le cas, les autres avaient l'obligation morale de lui porter secours, tout comme vous. Mais vous l'avez laissé mourir.
« Oui. »«
Et les autres aussi, vous allez les laisser mourir ?»«
Pas nécessairement. Cela dépend d'eux, et du Gritch, si cette créature existe vraiment. » Tout ce que je sais pour le moment, c'est que leur pèlerinage est trop important pour les laisser se dérober à l'instant décisif.
Pourquoi décisif ? En quoi la vie de 5 ou 6 personnes, dont un bébé, affecte-t-elle le sort de 150 milliards d'individus ?
Je connaissais la réponse à cette question naturellement. L'Assemblée consultative des IA et les prévisionnistes moins parfaits de l'hégémonie avaient choisi les pèlerins avec le plus grand soin.
Mais dans quelle optique ? L'imprévisibilité. C'était des variables inconnues symbolisant toute l'énigme de l'équation d'Hyperion.
Mais Gladstone savait-elle ces choses ou ne connaissait-elle que ce que le conseiller Albedo et ses propres services de renseignement voulaient bien lui dire ?
Je poussai un soupir et retournai m'asseoir. « Est-ce que votre rêve vous a renseigné sur le sort du colonel Cassad ?»
me demanda-t-elle.
« Non,
je me suis réveillé au moment où il retournait au Sphinx pour s'abriter contre la tempête. »
Elle eut un sourire léger. « Vous vous rendez compte, H. Severn, que notre intérêt serait de vous mettre sous sédative et de vous injecter le même sérum de vérité que vos amis Philomel ?» avec un laryngophone qui nous tiendrait continuellement au courant des événements ?
Je lui rendis son sourire.
« C'est vrai, » déclarai-je,
« ce serait plus commode pour vous.
Mais que diriez-vous si je vous abandonnais mon corps pour me réfugier dans le centre par l'intermédiaire de l'infosphère ?»
J'ai l'impression que c'est exactement ce qui se passerait si j'étais de nouveau soumis à des moyens coercitifs.
En effet, c'est exactement ce que je ferais à votre place, je suppose.
Mais dites-moi, H. Severn, quelle impression cela fait-il de se trouver dans le centre ? À quoi ressemble cet endroit lointain où réside véritablement votre conscience ?
Cela grouille d'activité.
Mais vous n'aviez pas autre chose à me demander ce matin ?
Elle sourit de nouveau, et je sentis que c'était un sourire sincère et non l'arme politicienne dont elle savait se servir si bien.
« Vous avez raison, » me dit-elle. « J'avais autre chose en tête. »
Que diriez-vous d'aller sur Hyperion ? Le vrai Hyperion.
Le vrai Hyperion ? Répétai-je stupidement. Je ressentis des fourmillements aux doigts et aux orteils, tandis qu'une étrange excitation m'envahissait. Ma conscience résidait peut-être dans le technocentre, mais mon cerveau et mon corps n'étaient que trop humains, sensibles à l'adrénaline et autres substances chimiques libérées en fonction des circonstances.
« Des millions de gens donneraient n'importe quoi pour s'y rendre, »
fit Gladstone en hochant la tête.
« Se distransporter vers de nouveaux horizons, voir la guerre de plus près. Les imbéciles !»
ajouta-t-elle en soupirant et en déplaçant son bloc-notes.
« Mais j'aimerais tout de même envoyer quelqu'un là-bas pour me tenir personnellement au courant, »
ajouta-t-elle en me fixant de ses yeux bruns au regard soudain redevenu intense.
Legge doit emprunter ce matin l'un des nouveaux terminaux militaires d'Istrance, et j'ai pensé que vous pourriez l'accompagner. Vous n'aurez peut-être pas le droit de descendre sur la planète elle-même, mais vous seriez quand même aux premières loges.
Plusieurs questions me vinrent aussitôt à l'esprit, et je fus embarrassé d'entendre la première qui sortit de mes lèvres. Y aura-t-il du danger ? Ni l'expression ni le ton de Gladstone ne changea.
C'est possible. Mais vous serez largement en arrière des zones de combat, et Legge a des instructions précises. En aucun cas, il ne doit s'exposer ou vous exposer à un danger prévisible.
Un danger prévisible. Mais à combien de dangers non prévisibles s'exposait-on dans une zone de guerre, près d'un monde où se promenait en liberté une créature telle que le Gritch ?
C'est entendu, déclarai-je. J'irai avec lui. Mais il y a une chose qui me...
Oui ?
Il faut que je sache pourquoi vous voulez m'envoyer là-bas. Si la principale utilité est de vous tenir au courant des activités des pèlerins, il me semble que vous courez un risque inutile en vous séparant de moi.
Elle hocha la tête.
H. Severn, il est exact que votre lien, quoique relativement ténu, avec les pèlerins m'intéresse beaucoup. Mais je suis encore plus curieuse de connaître vos réactions personnelles et vos estimations devant la réalité.
Vous ne savez pourtant rien de moi. Vous ignorez avec qui d'autre je pourrais être en rapport, délibérément ou non. Je suis tout de même une créature du technocentre.
C'est exact. Mais vous êtes peut-être aussi en ce moment la personne la moins engagée de Tau Ceti Central, ou même du Reds tout entier. Et votre point de vue est celui d'un poète aguerri, un homme dont je respecte le génie. »
J'éclatais bruyamment de rire. Le génie, c'était lui. Je ne suis qu'un simulacre, une extension, une caricature.
En êtes-vous si sûr ?
Me demanda Mayna Gladstone. J'écartai les bras. Voilà 10 mois que je me trouve avec toute ma conscience dans cette étrange après-vie qui est actuellement la mienne, et je n'ai pas encore écrit un seul vers. Je ne pense pas comme un poète. N'est-ce pas la preuve que le programme de récupération du technocentre s'est soldé par un fiasco ? Même ma fausse identité est une insulte à la mémoire d'un homme qui a toujours eu infiniment plus de talent que je n'en aurais jamais.
Joseph Severn était une ombre à côté du vrai Keats, mais je salis son nom en l'utilisant ainsi aujourd'hui. Vous avez peut-être raison. Je n'en suis pas certaine, cependant. Quoi qu'il en soit, je vous ai prié d'accompagner Ash Hunt dans son bref voyage dans le système d'Hyperion. Vous n'êtes pas contraint d'y aller. Je ne peux pas faire pression sur vous. Vous n'êtes même pas un ressortissant de l'hégémonie. Mais cela me ferait plaisir.
J'irai, répétai-je avec l'impression d'entendre la voix d'un autre.
Parfait. Couvrez-vous bien. Ne mettez aucun vêtement qui risque de s'ouvrir ou de vous causer une gêne en apesanteur, bien qu'il y ait très peu de chances pour que vous vous trouviez dans un tel cas. Vous avez rendez-vous avec Ash Hunt au noyau distance principal de la maison du gouvernement dans...
Elle consulta son persoc.
12 minutes.
J'acquiesçai et me préparai à prendre congé.
Autre chose, Ash Severn,
me dit-elle. Je me retournai sur le seuil. La vieille dame paraissait soudain beaucoup plus menue et terriblement lasse.
Tous mes remerciements, Ash Severn,
murmura-t-elle. Il était exact que des millions de personnes cherchaient à se distransporter dans la zone de guerre. L'assemblée de la Pangermie était assaillie de pétitions pour que l'interdiction faite aux civils de se rendre sur Hyperion soit levée, de demandes d'excursions limitées de la part des compagnies de tourisme, de requêtes présentées par des politiciens planétaires ou des représentants de l'hégémonie pour organiser des missions d'information. Toutes les demandes avaient été rejetées. Les citoyens du Retz, particulièrement ceux qui avaient de l'influence et une parcelle de pouvoir, n'avaient pas l'habitude qu'on leur refuse l'accès à de nouvelles expériences. Et pour l'hégémonie, une guerre totale était l'une des rares expériences encore jamais essayées. La présidente et les autorités de la force demeuraient cependant intraitables. Pas question de se distransporter dans le système d'Hyperion sans une raison valable. Pas question d'autoriser les médiatiques à opérer sans aucune censure. À une époque où aucune information n'était inaccessible et où aucun déplacement n'était impossible, ces restrictions étaient à la fois exaspérantes et insupportables. Je retrouvai Hunt au noyau distance des personnalités officielles, après avoir montré mon code d'accès à une bonne douzaine de postes de sécurité. Il était vêtu de laine noire, sans insigne, mais dans le style des uniformes de la force partout présents dans cette partie de la maison du gouvernement. Je n'avais pas eu pour ma part beaucoup de temps pour me changer. J'avais juste fait un saut dans mes appartements pour me munir d'une grosse veste avec de nombreuses poches, où j'avais fourré du matériel pour dessiner, ainsi qu'un imageur 35 mm.
« Prêt ?»
me demanda Hunt. Il tenait à la main une mallette noire. À en juger d'après l'expression qui flottait sur son visage de basset, il n'était pas tellement content de me voir. J'acquiesçai d'un mouvement de tête. Il fit un signe à un technicien du service des transports de la force, et un portail monopasse se matérialisa devant nous. Je savais que l'engin était réglé sur nos signatures ADN individuelles et ne laisserait passer personne d'autre. Hunt prit une profonde inspiration et passa le premier. Je vis miroiter la surface de la porte comme un plan d'eau troublé par la brise. Puis je lui emboîtai le pas. On disait que les premières portes distrance ne provoquaient aucune sensation chez leurs utilisateurs et que les IA et les humains qui les avaient conçues avaient ajouté plus tard ce vague fourmillement et cette odeur d'ozone qui donnait l'impression de s'être déplacé. Quelle que soit la vérité, j'avais la chair de poule lorsque je fis un pas pour m'écarter de la porte et regarder autour de moi. Chose étonnante mais exacte, les vaisseaux spatiaux de combat sont décrits dans la littérature, les films, les holos et les steam-sims depuis plus de 8 siècles. Avant même que l'humanité eût fait ses premières armes dans l'atmosphère de l'ancienne Terre,
Ces films Bidim montraient des combats spatiaux épiques, des bâtiments interstellaires énormes, avec un armement incroyable, fendant l'espace comme des cités au profil effilé. Même le déluge relativement récent des holos de guerre qui suivirent la bataille de Brescia montra des flottes imposantes qui s'affrontaient à des distances que même deux fantassins jugeraient claustrophobiques, avec des vaisseaux qui prenaient feu et qui s'éprenaient comme des trirèmes grecs massés dans le détroit d'Artémision. Rien de surprenant dans ces conditions si j'avais le cœur qui battait la chamade et les paumes des mains un peu moites lorsque je posais le pied à bord du vaisseau amiral de la flotte, en attendant à me retrouver sur le vaste pont d'un croiseur de guerre issu d'un holo, avec partout des écrans géants montrant les vaisseaux ennemis, des commandants aux visages burinés penchés sur des panneaux tactiques, le tout ponctué de beuglements de klaxons et de mouvements de tangage, un coup à droite, un coup à gauche. Nous nous trouvions en fait au milieu d'un étroit corridor qui aurait pu être celui d'une centrale électrique. Partout, des faisceaux de câbles et de conduits de différentes couleurs se croisaient. Il y avait à intervalles réguliers des poignées de soutien et des portes ovales étanches qui indiquaient que nous étions bien à bord d'un vaisseau spatial. Des panneaux interactifs et des disques issus des toutes dernières technologies donnaient à penser que ce corridor servait à autre chose qu'à livrer accès vers l'extérieur. Mais l'impression globale demeurait celle d'un endroit claustrophobique, à la technologie primitive. Je m'attendais presque à voir des câbles sortir des boîtes de dérivation des circuits. Un puits vertical faisait intersection avec notre corridor. D'autres passages étroits et encombrés étaient visibles à travers les portes ovales. Hunt se tourna vers moi et haussa légèrement les épaules. Je commençais à me demander si une erreur était possible et s'il se pouvait que nous ne soyons pas arrivés au bon endroit. Mais avant que l'un de nous ait eu le temps de dire quoi que ce soit, un jeune enseigne de la Force en uniforme noir apparut à la sortie de l'un des corridors latéraux et salua Hunt en disant « Bienvenue à bord du vaisseau hybride, messieurs. L'amiral Nashita vous fait ses compliments et vous prie de le rejoindre dans la salle de commandement des opérations. Si vous voulez bien me suivre, c'est par ici. » Faisant volte-face, le jeune enseigne saisit un barreau et s'éleva dans un puits étroit. Nous le suivîmes tant bien que mal. Hunt luttait pour ne pas laisser tomber sa mallette, et moi pour ne pas me laisser écraser les doigts par ses talons. Ce n'est qu'après avoir parcouru quelques mètres que je me rendis compte que la gravité était largement inférieure à 1G standard. Ce n'était pas en fait de la gravité, mais plutôt la sensation d'être poussé vers le bas par une multitude de petites mains tenaces. Je savais que les vaisseaux spatiaux utilisaient des champs de confinement de première catégorie pour simuler la pesanteur à bord, mais c'était la première fois que j'en faisais directement l'expérience. Ce n'était pas une sensation particulièrement agréable. La poussée continuelle évoquait un vent violent contre lequel il fallait rentrer les épaules. Cela s'ajoutait à l'impression de confinement produite par l'étroitesse des corridors et des portes ovales, ainsi que par les parois et les plafonds encombrés de câbles et de canalisation. Le vaisseau hybride appartenait à la catégorie 3C, celle des vaisseaux de communication, de contrôle et de commandement. La salle de commandement des opérations était son cœur et son cerveau, mais ce n'était pas un cœur et un cerveau bien impressionnants. Le jeune enseigne nous fit franchir trois portes étanches, puis passer dans un nouveau corridor, entre des marines en faction. Il nous laissa dans une salle qui devait faire 20 mètres carrés au plus, mais qui était tellement bruyante et tellement pleine de monde et de matériel que l'instinct commandait la fuite afin de respirer un peu d'air. Pas d'écran géant dans cette salle, mais des douzaines de jeunes officiers de la Force penchés sur des diagrammes incompréhensibles, assis bardés de connexions SteamSim, ou bien debout devant des panneaux pulsants qui semblaient sortir des six faces de la salle. Tous, hommes et femmes, étaient sanglés dans leurs fauteuils et dans leurs berceaux sensoriels, à l'exception de quelques officiers qui ressemblaient plus à des bureaucrates accablés qu'à des guerriers burinés et qui se déplaçaient sans arrêt, donnant des tapes dans le dos de leurs subordonnés, aboyant des demandes d'informations, connectant leurs implants aux différents pupitres. L'un d'eux se dirigea vers nous en nous apercevant, nous dévisagea l'un après l'autre et me salua finalement en disant « Ash Hunt ?» Je fis un signe de tête en direction de mon compagnon. « Ash Hunt !» fit le jeune commandant bedonnant.
« L'amiral Nashita va vous recevoir immédiatement. »
Le commandant en chef des forces de l'hégémonie dans le système d'Hyperion était un petit homme aux cheveux blancs coupés courts, à la peau beaucoup moins ridée que n'aurait pu le faire supposer son âge, et à l'expression sévère qui semblait gravée une fois pour toutes sur son visage. Il portait un uniforme noir à col haut, sans aucun insigne de grade, à l'exception d'une naine rouge sur le côté du col. Ses mains étaient courtes et d'un aspect puissant, mais les ongles étaient soigneusement manucurés. Il trônait sur une petite estrade pleine de matériel et de panneaux d'affichage au repos. Une activité efficace et frénétique semblait jaillir de cet homme comme un torrent de chaque côté d'un roc inébranlable.
« Vous êtes l'envoyé de Gladstone, » dit-il à Hunt. « Qui est cette personne ?»«
Mon collaborateur, »
déclara Leigh Hunt. Je résistais à l'impulsion de hausser un sourcil.
« Que voulez-vous ? » demanda Nachita. « Comme vous le voyez, nous sommes très occupés. »
Leigh Hunt hocha la tête et jeta un regard autour de lui.
« Je vous apporte quelques documents, amiral. Y a-t-il un endroit où nous pourrions avoir un entretien privé ?»
L'amiral émit un grognement et passa la main sur un réhausenseur. L'atmosphère autour de moi devint plus dense, formant une brume semi-solide, tandis que le champ de confinement se matérialisait. Les bruits du centre de commandement disparurent. Nous nous retrouvâmes tous les trois dans un igloo de silence.
« Faites vite !»
demanda l'amiral Nachita. Hunt ouvrit la mallette et en sortit une petite enveloppe portant au dos le sceau de la maison du gouvernement.
« Message personnel de la présidente !» déclara Hunt. « Vous en prendrez connaissance quand vous voudrez, amiral. »
Nachita mit l'enveloppe de côté avec un grognement. Hunt posa une deuxième enveloppe, plus grosse, sur le bureau.
Voici un exemplaire de la motion votée par le Sénat concernant la poursuite de ces opérations militaires. Comme vous le savez, la volonté du Sénat est que vous procédiez à une rapide démonstration de force pour atteindre un objectif limité, avec aussi peu de pertes que possible en vie humaine, suivi de l'offre habituelle d'assistance et de protection à notre nouvelle acquisition coloniale.
L'expression bourrue de Nachita fut troublée par un tressaillement rapide. Il ne fit aucun geste pour prendre ou lire le document exprimant la volonté du Sénat.
« C'est tout ? »
demanda-t-il. Hunt prit son temps pour répondre.
« C'est tout, à moins que vous ne souhaitiez me faire transmettre un message personnel de votre part à la présidente, amiral. »
Le regard de Nachita était perdu dans le vague. Il n'y avait aucune hostilité active dans ses petits yeux noirs, à part une impatience qui ne s'éteindrait, supposais-je, que le jour où la mort les éteindrait.
« J'ai déjà un accès privé à la maison du gouvernement par Mégatrans, merci !»
fit l'amiral.
« Il n'y a pas de réponse pour le moment. Si vous voulez bien regagner le noyau distance du vaisseau, je vais poursuivre les opérations militaires. »
Le champ de confinement qui nous entourait s'affaissa et le bruit revint comme l'eau par-dessus un barrage de glace en train de fondre.
« Autre chose, »
fit Hunt, dont la voix tranquille était presque noyée par le techno-babillage du centre de commandement. L'amiral Nachita fit pivoter son fauteuil et attendit.
« Nous voudrions descendre sur la planète, à la surface d'Hyperion. »
L'expression de Nachita se renfrogna de plus belle.
« Personne à la maison du gouvernement ne nous a demandé de préparer un vaisseau de descente. »
« Le gouverneur général Lane a été prévenu de notre éventuelle visite, »
répliqua Hunt sans sourciller. Nachita jeta un coup d'œil à ses écrans, fit claquer ses doigts et aboya un ordre à l'intention d'un marine qui accourut.
« Il faudra vous dépêcher, » dit-il à Hunt. « Nous avons un courrier sur le départ à la porte 20. Le major Inverness va vous montrer le chemin. Votre retour se fera à bord du portier principal. Notre vaisseau quitte ce secteur dans 23 minutes. »
Hunt acquiesça et suivit le major. Je leur emboîtai le pas. La voix de l'amiral nous arrêta.
« H. Hunt, vous voudrez bien dire de ma part à la présidente que le vaisseau amiral sera désormais trop occupé pour recevoir à son bord des visites de politiciens. »
L'amiral se tourna de nouveau vers ses écrans et vers une file de subordonnés qui attendaient. Je suivis Hunt et le major dans le dédale des corridors.
« Il devrait y avoir des hublots. »
Pardon ? Mes pensées étaient ailleurs, et je n'avais pas entendu ce que me disait Hunt. Il tourna la tête pour répéter.
« Il devrait y avoir des hublots. C'est la première fois que je voyage à bord d'un vaisseau de descente sans hublot ni écran d'observation. Vous ne trouvez pas ça drôle ?
Je hochai la tête et regardai autour de moi comme si je le voyais pour la première fois, l'espace exigu de la cabine. C'était vrai, les parois n'avaient aucune ouverture. Le compartiment des passagers était encombré de matériel. Seul un jeune lieutenant voyageait avec nous. L'atmosphère était aussi claustrophobique que celle de la salle de commandement du vaisseau amiral. Je détournai les yeux. Je ne cessais de revenir aux pensées qui me préoccupaient depuis que nous avions quitté Nachita. En suivant les deux autres jusqu'à la porte 20, j'avais soudain été frappé par l'idée que je n'étais pas aussi angoissé que je l'avais craint du fait de l'éloignement d'une certaine chose. Une grande partie de ma réticence à accomplir ce voyage venait de ma peur de quitter l'infosphère. J'étais comme un poisson qui envisage de sortir quelque temps de l'eau. Une fraction de ma conscience était toujours plongé quelque part au milieu de cette mer, cet océan de données et de communications entre le technocentre et 200 mondes reliés par ce médium invisible que l'on appelait autrefois l'infoplan et qui ne porte plus aujourd'hui que le seul nom de mégasphère. Ce qui m'avait frappé le plus en quittant Nachita, c'était que j'entendais toujours la pulsation régulière de cet océan d'un genre spécial. Une pulsation lointaine mais constante, qui faisait penser au bruit des vagues à un kilomètre du rivage, et que j'avais fait des efforts pour comprendre durant notre course à travers les corridors pour arriver jusqu'au vaisseau de descente, et aussi lorsque nous avions bouclé nos harnais et que le petit vaisseau s'était séparé du gros pour sa descente cislunaire de 10 minutes jusqu'aux premières franges de l'atmosphère d'Hyperion. La Force se targuait d'utiliser ses propres intelligences artificielles, ses propres infosphères et ses propres sources informatiques. La raison officielle était la nécessité d'opérer dans les grands espaces interstellaires du Retz, noir et désert, et dans les secteurs situés en dehors de la mégasphère. Mais la vraie raison était principalement le désir forcené d'indépendance que la Force manifestait depuis des siècles à l'égard du technocentre. Et cependant, à bord d'un vaisseau amiral de la Force, au milieu d'une armada de la flotte, dans un système qui ne faisait pas partie du Retz et qui n'était pas non plus un protectorat, j'étais resté en contact avec le même bruit de fond rassurant de données et d'énergie que dans n'importe quelle partie du Retz. Très intéressant, ça. Je me mis à penser à toutes les connexions que le réseau d'Istrans avait introduites dans le système d'Hyperion. Pas seulement le vaisseau portier ou la sphère de confinement qui flottait au point L3 d'Hyperion comme une lune flambant neuve, mais également les kilomètres de câbles gigacanaux en fibre optique qui serpentaient à travers les portails d'Istrans permanents du vaisseau portier. Les répéteurs hyperfréquences qui relayaient automatiquement les messages en temps presque réel, sans oublier les IA apprivoisées du vaisseau amiral, qui demandaient et recevaient de nouveaux canaux de liaison avec le commandement militaire d'Olympus sur Mars et ailleurs. D'une manière ou d'une autre, l'infosphère s'était introduite dans tout le réseau, peut-être à l'insu des machines de la Force et de leurs opérateurs ou alliés. Les IA du technocentre étaient au courant de tout ce qui se passait ici, dans le système d'Hyperion. Si mon corps devait mourir à l'instant même, je disposerais, pour m'échapper, des mêmes chemins que d'habitude. Je pourrais battre en retraite le long des liaisons qui pulsent jusqu'au Retz comme des passages secrets, au-delà des vestiges de l'infoplan tel que l'humanité l'a connu, dans des galeries de communication qui plongent au cœur du technocentre proprement dit. Pas vraiment jusqu'au cœur, me disais-je, car le technocentre enveloppe et englobe le reste comme un océan contient des courants séparés, des Gulf Streams qui se prennent eux-mêmes pour des océans distincts.
« J'aurais quand même voulu qu'il y ait un hublot », murmura Leg Hunt.
« Oui, » répondis-je.
« Moi aussi. »
Le vaisseau de descente se cabra et vibra lorsque nous pénétrâmes dans la haute atmosphère d'Hyperion.
Hyperion. Le Gritch.
Ma chemise épaisse et ma veste étaient lourdes et collantes. Un léger sifflement à l'extérieur nous apprenait que nous volions maintenant à travers le ciel lapis à plusieurs fois la vitesse du son. Le jeune lieutenant se pencha vers nous.
« C'est la première fois que vous descendez à la surface, messieurs ?»
Hunt hocha affirmativement la tête. Le lieutenant mâchonnait du chewing-gum, nous montrant à quel point il était décontracté.
Vous êtes des techs civils de l'Hébride ?
C'est de là que nous venons, en effet, répondit Hunt.
Je l'avais deviné,
fit le lieutenant avec un sourire.
Moi, je fais les staffettes pour la base des marines dans les environs de Kitt. C'est mon 5e voyage.
Un étrange frisson me parcourut à la mention du nom de la capitale d'Hyperion. Cette planète avait été repeuplée par le roi Billy le Triste et sa colonie de poètes, artistes et autres marginaux qui redoutaient l'invasion de leur monde par Horace Glennon Haight. Cette invasion, en fait, ne s'était jamais produite. Le poète Martin Silenus, qui faisait aujourd'hui partie du pèlerinage Grichtek, avait conseillé au roi Billy, un peu moins de 2 siècles plus tôt, de nommer sa capitale Kitz. Les indigènes appelaient l'ancienne ville Jacktown.
« Vous allez trouver cet endroit incroyable !»
dit le lieutenant.
« C'est vraiment le bout du monde, l'anus de la création. Pas d'infosphère, pas de VEM, pas de distrans, ni de Barsimstim. Rien du tout. Pas étonnant qu'il y ait en ce moment des milliers de foutus indigènes qui campent autour du port spatial en essayant de faire tomber les grilles pour prendre le premier vaisseau en partance.
« Ils s'attaquent vraiment au port spatial ?»
demanda Hunt.
« Pas encore !»
répondit le lieutenant en faisant claquer son chewing-gum.
« Mais ça ne va pas tarder, à mon avis. C'est pour cela que les marines ont délimité une zone interdite et protégé les accès de la ville. De plus, les bouseux du coin sont persuadés que nous allons installer des distances d'un jour à l'autre et les laisser se sortir ainsi de la merde dans laquelle ils se sont fourrés eux-mêmes.
« Eux-mêmes » demandai-je.
« Ils ont bien dû faire quelque chose pour se mettre les extras à dos, n'est-ce pas ?»
fit le lieutenant avec un haussement d'épaule.
« Nous sommes juste ici pour leur tirer les lardons du feu. »«
Les marrons, » lui dit Leg Hunt.
Le chewing-gum claqua.
« Ça ou n'importe quoi. »
Le bruissement du vent devint un hurlement clairement audible à travers la coque. Le vaisseau de descente rebondit à 2 reprises, puis entama une glissade assez inquiétante, comme s'il avait rencontré subitement un plan très incliné de glace lisse à 15 000 mètres de la surface.
« Dommage qu'il n'y ait pas de hublot, »
murmura Hunt. L'air était chaud et moite à l'intérieur du vaisseau. Le rebond avait un effet étrangement apaisant, comme les mouvements d'un voilier sur une mer légèrement houleuse. Je gardai les yeux fermés durant quelques minutes.